Radio Okapi.
Le journal François Kadima. Okapi.
À la une de l'actualité, ce parti avec la campagne de collecte de fonds pour l'Est de la RDC, une initiative du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire pour assister la population de cette partie du pays meurtrie par la guerre. Et puis l'Union africaine a totalisé 50 ans depuis sa création. Dans ce journal, vous suivrez quelques étudiants interrogés à Kinshasa sur le bilan de cette organisation panafricaine. Nous parlerons aussi de la journée internationale de lutte contre la fistule. À Kindu, 680 cas de fistules ont été réparés depuis 2012, déclare le médecin directeur de l'hôpital de la maternité sans risque de cette ville du Maniema. Bienvenue à tous. Le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire a lancé la campagne nationale des solidarités pour la population de l'Est de la RDC en proie à la violence endémique de groupes armés. Le but de cette campagne est de mobiliser les fonds nécessaires ainsi que de dons en nature pour matérialiser le profond désir du peuple congolais d'être uni. Les comptes bancaires sont ouverts à travers 11 provinces du pays et hébergés par 4 banques, notamment la BCDC, la Rao Bank, la TMB et la BIAC. La gestion de ces fonds est confiée à Caritas Congo. Docteur Bruno Miteo Nyanga, secrétaire exécutif de la Caritas Congo, explique comment sera géré ce fonds. Il est au téléphone de Richard Jean Kamunga.
La campagne de solidarité en faveur de nos compatriotes de l'Est, ça a été une opération lancée par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Et le ministère a expliqué suffisamment le bien fondé de cela. Qui nous appartient, nous, comme Caritas, de pouvoir donner comme garantie, eh bien, la Caritas Congo accuse un professionnalisme sur terrain, dans la mesure où elle tient toujours à rendre compte aux bénéficiaires des actions qu'elle mène, mais aussi à la fois aux donateurs ou aux bailleurs. Donc, l'unique garantie qu'il faut donner, c'est que la gestion va se faire de manière tout à fait conjointe, selon les règles des jeux bien définies, des règles des jeux transparentes.
Et puis le journaliste est menacé de mort dans les zones contrôlées par le M23. C'est ce qu'affirme Reporters sans frontières dans son rapport d'hier vendredi à l'agence France Presse. Selon cette ONG, le M23 censure les informations à diffuser dans de différentes rédactions et contrôle la ligne éditoriale de médias. Le rapport de Reporters sans frontières précise que ce mouvement rebelle va jusqu'aux enlèvements de journalistes. Askin Zigbertairo.
Sur base des témoignages d'un rédacteur en chef, Reporters sans frontières rapporte à l'AFP que les agents de renseignement du M23 débarquent chaque soir dans la rédaction et lisent tous les papiers d'information. Ils décident quelles informations diffuser ou les taire sans discussion. Au cas contraire, c'est la menace de mort qui pèse sur toute la rédaction. D'après Reporters sans frontières, près d'une dizaine de journalistes, voire plus, ont dû fuir. D'autres sont espionnés et gardés à l'œil. L'organisation dit avoir déjà interpellé le M23 sur des accusations similaires dans le passé. Reporters sans frontières déplore pour l'instant les pertes civiles et les dégâts causés par la reprise des hostilités. Elle s'est dit particulièrement inquiète pour les acteurs de l'information, lesquels sont empêchés d'exercer librement leur métier pendant ce temps. Mais selon l'AFP, René Abandi, chargé des relations extérieures du M23, dément les accusations de Reporters sans frontières. Il fait valoir que le M23 est victime de faux témoignages.
Le CETAS africain commémore sous le thème panafricanisme et renaissance africaine le 50e anniversaire de l'organisation de l'unité africaine OUIA créée le 25 mai 1963. Ce samedi, les célébrations du cinquantenaire de l'unité africaine réuniront, outre le chef d'État du continent, le président français François Hollande, le vice-premier ministre chinois Wang Yang, le secrétaire d'État américain John Kerry et le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Que retenir de cette organisation panafricaine 50 ans après sa création? En tout cas, quelques étudiants des universités congolaises ont dressé un bilan mitigé des actions de cette organisation panafricaine. Ils s'expriment Au micro de Michel Kifinangoy.
Si on doit parler de l'Union africaine, on ne sent pas vraiment l'impact de cette organisation dans les divers problèmes qui arrivent à notre continent.
50 ans après l'existence de l'Union africaine, par rapport à notre pays, le bilan n'est pas positif. Pourquoi ? Parce que l'Union africaine est presque absente dans notre pays. On a des problèmes, l'apport de l'Union africaine est presque absent.
De mon avis, c'est un bilan négatif dans ce sens où l'organisation de l'Union africaine a visé plus l'intégration. D'où, jusqu'aujourd'hui, l'organisation n'arrive pas à peser ou atteindre ses objectifs fixés, d'éradiquer les conflits que nous sommes en train de vivre dans des régions et pouvoir favoriser la paix en Afrique.
Je n'ai pas vraiment réalisé l'impact de l'Union africaine par rapport à l'Union européenne. Pour moi, c'est vraiment 50 ans au niveau théorique.
Jusqu'à maintenant, l'Union africaine n'est pas capable de trouver la solution dans tout ce qui se passe en Afrique. Et les présidents africains ne sont pas unis et ne parlent pas le même langage. Les cas comme de Libye, ce n'est pas l'OTAN qui peut aller intervenir au Libye. C'est pour vous dire que l'Union africaine n'a pas de moyens.
Prenons cette autre nouvelle. Il s'est passé 5 ans depuis que ce que les Congolais appellent vulgairement des contrats chinois ont été signés entre d'un côté la République démocratique du Congo et de l'autre la République populaire de Chine. Une occasion pour Moïse Ekanga, secrétaire exécutif du bureau de coordination et de suivi du programme Sino-Congolais, d'expliquer dans une conférence de presse hier vendredi à Kinshasa ce projet de coopération Sino-Congolais et d'en faire une évaluation. De détails avec Neola Luzito.
La convention de coopération signée le 22 avril 2008 entre le gouvernement congolais et le groupement des entreprises chinoises avait deux objectifs. Pour la partie congolaise, a dit Moïse Ekanga, il fallait trouver les ressources financières nécessaires à la réalisation des projets d'infrastructure nationale et à la modernisation du pays. Pour le groupement d'entreprises chinoises, il devait mobiliser au départ 6 milliards de dollars pour financer les infrastructures. En retour, son objectif était d'investir dans le domaine des métaux non ferreux en RDC. Mais ce montant fut revu à la baisse, 3 milliards de dollars à la demande de la RDC après discussion avec le FMI et la Banque mondiale. Ajoutez à cela 3 milliards 200 millions de dollars pour financer le projet minier, d'où la naissance de la joint venture Sicomine, dont 32% reviennent à la Gécamine et 68% au groupement d'entreprises chinoises. Routes, ponts, bâtiments et autres infrastructures ont été construits aussi bien à Kinshasa que dans les provinces. D'autres sont en chantier ou restent à faire, a dit l'orateur. À noter que le boom immobilier enregistré actuellement à Kinshasa ainsi que l'émergence d'une main-d'œuvre congolaise qualifiée dans les travaux publics sont à mettre à l'actif de ce projet, a-t-il conclu.
Noéla Luzitu. Et puis le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, Médard Ilunga, a indiqué que les travaux du boulevard Lumumba à Kinshasa vont se terminer début 2014. Je le disais également en titre, plus de 680 cas de fissures ont été réparés depuis 2012 à l'hôpital de la maternité sans risque de la ville de Kindu dans le Maniema. C'est le bilan dressé hier par le médecin directeur de cet hôpital à l'occasion de la première journée internationale de lutte contre la fistule. Une occasion pour le docteur Jean-Pascal Manga Okenge d'inviter les femmes concernées à venir se faire soigner gratuitement dans cet hôpital. Ce médecin gynécologue fait appel notamment aux femmes de Kibombo, un coin du Maniema, où il y a plusieurs cas de fistules. Il est au micro d'Amina Mouacha de la radio Akizabina Damu Maniema.
Nous avons voulu envoyer un message très fort à l'endroit des femmes qui souffrent de fistules, que nous ne pouvons pas les abandonner. Nous sommes obligés de les soigner. Nous voudrions que demain, après-demain, ici aussi, dans la province du Maniema, on puisse parler des accouchements sans fistules. Elles ne paieront rien. Au contraire, en post-opératoire, nous sommes obligés même de les nourrir. Parce que nous voulons que dans quelques années, lorsqu'on va parler de la fistule zéro au niveau de la République démocratique, du Congo, que bien la province du Maniema ne soit pas en retard. Nous devons réparer ces fistules, que ce soit ici, et maintenant nous utilisons souvent Kibombo, puisqu'il y avait des infrastructures. Évidemment, maintenant, avec les problèmes de la route, je crois que les malades de Kibombo ne pourront plus être pris en charge correctement et facilement.
Pour terminer avec Badolité, province de l'Équateur, hausse de prix de denrées alimentaires sur différents marchés depuis le début du mois de mars. Ce constat est fait par l'autorité urbaine qui a effectué une semaine, donc la semaine dernière, la ronde de marché de cette ville. Le maire de la ville explique cette hausse de prix par la présence des réfugiés centrafricains et des militaires du 108e régiment de FARDC déployés récemment à Badolité. Égide Nikingbo est au micro de Béatrice Nabindi.
L'augmentation des prix des biens de consommation sur le marché des mobilités est due à la présence massive des réfugiés centrafricains sur le sol de la ville. Et cela a pris encore d'autres ampleurs à la suite de l'arrivée des militaires qui sont venus en mutation de l'Est pour la ville et accompagnés de toutes leurs familles. Et étant donné que le principe de la loi de l'offre et de la demande a un effectivement sur le prix des biens de consommation, une mesurette du riz se vendait à 400 francs, revient aujourd'hui à 600 francs. Une mesurette de haricots qui se vendait à 800 francs, aujourd'hui à 1200 francs. L'huile de palme qui se vendait à 400 francs, se vend aujourd'hui à 700 francs, la bouteille. Les gigots de viande qui se vendaient à 7000 francs congolais, se vend aujourd'hui à 15000 francs congolais. Un poisson tilapia qui se vendait à 800 francs, se vend aujourd'hui à 1500 francs congolais.
Le maire de la ville de Gbadolité a lancé des messages invitant la population à doubler sa production compte tenu de l'augmentation du nombre de bouches à nourrir maintenant. Il demande également aux autorités provinciales d'aider ses administrés avec des intrants agricoles et des semences de qualité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.
Okapi, Okapi, eh. Radio, Okapi.